Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous propose de sortir de l'univers du marketing pour explorer celui de la philo. Avec Gilles Le Serre, enseignant en philosophie et technologie à HEC Paris, on creuse le sujet de l'impact de la technologie sur notre société et les conséquences de cette dernière sur nos modes de consommation. Bonne écoute! Salut Gilles!
Salut Noémie, merci beaucoup pour l'invitation.
Je t'en prie, merci d'avoir accepté. Je suis très très émue Gilles aujourd'hui parce que c'est une double première, pas de pression. Double première parce que c'est la première fois qu'on a un professeur dans le podcast. Donc déjà, c'est une belle inauguration avec toi qu'on va faire. Et puis c'est la première fois aussi qu'on va vraiment parler de philo. Donc j'ai vraiment hâte de commencer la conversation. Merci pour cette double première du coup.
Merci à toi encore.
Alors, je te propose, si tu veux, de commencer comme on commence toujours avec, avec les invités. C'est de commencer par parler un peu de ton parcours, pour donner un peu de contenu, de contexte aux auditeurs, et pour qu'ils comprennent un peu ce qui t'a amené justement à l'enseignement. Parce que si j'ai bien compris, tu es passé par la case entreprise tech avant de devenir prof de philo.
Ouais, alors écoute, moi j'ai un parcours assez, assez classique, prépa école de commerce, que j'ai quitté en 2016. Puis j'ai travaillé, j'ai monté un projet avec un ami en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, un projet de crowdlending, donc de financement des entreprises par de la dette privée. Et en fait, suite à ce projet, moi, j'étais un peu resté sur ma faim en termes d'enseignement et en termes de rapport aux technologies, au business en école de commerce. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouvais qu'il y avait un fossé entre les ambitions portées par les entreprises technologiques, leurs discours, les ressources qu'elles étaient en train de mettre en mouvement pour réaliser des visions qui dépassaient largement le cadre business stricto sensu. Et donc, c'était pas juste une histoire de profit, de rentabilité, mais c'était bien de changer le monde, pour le dire assez rapidement, en tout cas d'avoir une influence assez majeure sur le monde. Pourtant, ces entreprises et cette tech, on va dire, ne sont pas encore, je trouve, très analysées ou étudiées d'un point de vue, en fait, des sciences humaines. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre des études en philosophie en me disant, est-ce que la philosophie, ça peut pas être une porte d'entrée éclairante pour mettre en perspective ce mouvement technologique, d'une part avec un éclairage du passé, donc de... En gros, qu'est-ce qu'auraient dit des philosophes défunts de cette question? Comment est-ce que, on va dire, l'arsenal philosophique historique peut nous aider à penser ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est pas aussi hors sol que les entrepreneurs veulent le dire? Et voilà, et que c'était à la fois en utilisant le passé et aussi aujourd'hui, se donner des moyens de penser l'inédit et donc de penser ce mouvement technologique. Donc, j'ai repris des études de philo. En parallèle, j'ai commencé à enseigner donc, à HEC où j'étais étudiant. Donc, c'est ma quatrième rentrée. Et là, je démarre un doctorat de philosophie en philosophie des sciences, à Paris, toujours.
D'accord, sacré programme. félicitations. Donc, du coup, si je comprends bien, tu as été déçu un peu par ce discours et par toutes ces promesses technologiques et aussi un peu inquiété par le fait que personne ne les remettait vraiment en question et qu'elles s'intégraient de manière de plus en plus profonde dans... notre inconscient et notre manière de voir le monde et notre vision un peu du succès, de ce qui est une vie bien vécue, etc.
Ouais, c'est exactement ce dont on parlait un peu pour préparer notre discussion, Noémie. C'est la notion un peu d'évangélisation qui est assez fascinante, en fait. C'est littéralement cette volonté de prêcher la bonne parole, donc la bonne nouvelle, c'est quand même l'étymologie de l'évangile. Et donc de se dire, il y a une unicité d'une voix qu'il est inutile de discuter, qu'il est inutile de créer des vaines polémiques à ce sujet parce que on serait en présence d'une nouvelle élite qui est mue par d'une part sa conviction d'être un peu dans le secret de cet évangile, donc comme s'il y avait une nouvelle loi du progrès technologique dont ils étaient un peu les garants, donc on avait à suivre cette logique. Et qu'il fallait surtout le faire, non seulement parce qu'il y avait une élite qui savait le faire mieux que nous, mais surtout parce que c'était pour notre bien. Et en fait, cette rhétorique du bien-être, du confort, l'optimisation à outrance pour notre bien, en fait, c'est exactement ce que Tocqueville appelait le despotisme bienveillant. Et donc, c'était l'un des grands moments en tout cas, moi, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qu'il faut travailler aujourd'hui parce qu'on est exactement dans le cas de ce despotisme bienveillant, d'une autorité supérieure qui se croit en capacité de régler tous nos problèmes. Tocqueville parle qu'est-ce que cette autorité ne sera pas en mesure de faire, même nous empêcher de nous soucier de notre propre vie, si tu veux.
Assez effrayant.
Vivre, en fait. Ouais. Et donc, en fait, voilà, c'était le point de départ de me dire, il faut en fait, tout simplement, discuter ce monopole de la compréhension et de l'orientation de la technologie.
Ouais, et je me permets juste de rebondir là-dessus avant de te poser une autre question, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant cette notion de despotisme parce que c'est un despotisme mais qui est relativement pernicieux et c'est ce qu'on a abordé dans nos conversations quand on s'est rencontrés et qui nous a amené à enregistrer aujourd'hui le podcast. Finalement, c'est un discours, une idéologie qui est vachement portée par le marketing, par la communication et par justement la perpétuation d'une espèce de vision assez uniforme de ce que devrait être la société, de ce que devrait être le futur et de ce qu'est le bien commun au final. On nous réinvente un petit peu à travers ce marketing et ce solutionnisme technologique une société idéale qui en réalité ne l'est pas du tout.
Oui, voilà, exactement. C'est Huxley un peu qui avait déjà bien pressenti cette question. Donc, si on prend le meilleur des mondes, c'est une société optimisée où le confort règne. Néanmoins, les gens se sentent en fait relativement vides parce qu'ils ne sont pas en mesure de donner du sens à ce qu'ils font. Et si tu veux, la question en fait de discuter ce réductionnisme en fait, parce que c'est ne voir la société que sous l'angle d'un problème optimisé, c'est certes une vision d'ingénieur, donc faut pas oublier quand même que la plupart des fondateurs des boîtes californiennes, c'est souvent des ingénieurs, donc ils ont une vision très problème en fait, comme si tout n'était qu'un problème à régler. Et que tout, donc c'est très réducteur parce qu'on peut pas se dire que la vie n'est qu'une succession de problèmes qu'il s'agirait d'optimiser. Hein. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est prends l'exemple des cadeaux. Voilà. Moi, Noémie, j'ai envie de te faire plaisir pour ton anniversaire, t'offrir un cadeau.
Cool.
Quelle est la valeur de ce cadeau si, Facebook m'envoie un push en me disant, moi, j'ai bien compris qui était Noémie. En fait, le cadeau, c'est ça. T'as plus qu'à cliquer ici. Ça sera débité de ton compte directement. Et Noémie, elle le reçoit par Amazon en 24 heures.
J'avoue, c'est un peu triste.
le cadeau, là, il est optimal. Voilà. Et, en fait, bon, je divague un peu, mais je reviens à cette notion de réducteur, c'est réducteur.
Ça pense pour toi.
Voilà, on aura tout réglé, on aura pensé que tout peut se régler, on aura pensé que tout peut quantitativement se régler, c'est quand même assez important. Donc en fait, de croire que tout peut se réduire à des données, c'est quand même un postulat qui est énorme. Est-ce qu'on peut tout réduire à des données? Est-ce qu'on peut tout quantifier? C'est quelque chose qui est important, je pense, de discuter. Donc, à travers ce cadeau, à travers ces exemples-là, ce qui est pour moi important de remettre au goût du jour et qu'on semble avoir totalement perdu, c'est tout simplement la notion d'effort, en fait, et que l'émancipation personnelle, le fait qu'on s'arrache de notre condition un peu matérielle, qu'on essaie de s'élever un petit peu, ça passe par une certaine forme d'effort, une certaine forme d'introspection, une certaine forme de travail sur soi, qui est en fait quelque chose dont on est aujourd'hui totalement privé parce qu'on est dans cette croyance que la captation de données ne va pas servir uniquement les profits de ces entreprises, mais va aussi être en mesure de nous apporter le bonheur huxleyen, si je peux me permettre, sur un plateau sans même qu'on ait à lever le petit doigt. Voilà.
Ce serait sympa, mais ce n'est malheureusement pas la réalité. Ça me fait penser à un petit parallèle que j'aimerais bien tracer avec, avec le marketing, encore une fois, puisque c'est quand même un peu le sujet de ce storyline. C'est vraiment de se dire que pendant un bout de temps, on a considéré le marketing comme étant basé, en tout cas l'efficacité du marketing étant basée sur le côté quantitatif et la donnée justement, l'analyse, la personnalisation, la suggestion de contenu adapté et qu'aujourd'hui on voit à quel point au final c'est enfermant, voire abrutissant, notamment par le biais des algorithmes qui finissent par t'enfermer dans des bulles de filtres, des chambres d'écho qui ne renforcent que ta petite vision du monde et qui te privent un peu de ta capacité de libre arbitre et de ton esprit critique. Donc je trouve ça assez intéressant et assez important de le relever. Mais j'avais une question pour toi par rapport à, justement à ce choix de devenir prof et à l'univers de l'enseignement et de l'éducation. Est-ce que quand on enseigne, quand on éduque, on a la même démarche qu'une entreprise qui souhaiterait justement, par exemple une entreprise tech, qui souhaiterait éduquer ses consommateurs à une nouvelle solution, à un nouveau produit, à un problème qu'ils n'ont pas forcément?
Alors, à ce sujet, j'ai envie de dire que l'éducation, c'est donner des outils à des personnes pour qu'elles soient en mesure de gagner en autonomie, de gagner en jugement critique, de gagner en capacité de réflexion, de gagner en énergie pour faire des choses différentes, pour réaliser ce qu'elles avaient envie de faire comme projet, etc. Donc, de donner à la fois parfois des clés de compréhension et aussi parfois des boîtes à outils pour penser et agir. Voilà. Le problème pour moi, souvent avec le discours marketing ou donc qu'on retrouve aussi sur la question de l'évangélisation marketing, si tu veux, c'est que à l'inverse de vouloir parfois de rendre autonomes les personnes, notamment dans leur capacité à questionner, l'évangélisation ne cherche surtout qu'à apporter des réponses qu'il ne faudrait pas trop discuter. Donc, c'est là où, pour moi, la différence est fondamentale. Donc, à savoir, est-ce que des entreprises, parfois, arrivent à se dire que leur objectif, c'est de se faire questionner, que leurs clients se questionnent sur leurs usages? Ça peut arriver. Un exemple qui est un exemple assez proche de mes travaux, c'est toutes les questions de confidentialité et de vie privée. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises aujourd'hui dont le cœur de métier, ou en tout cas la volonté, c'est d'être plus dans la protection des données de leurs clients. Alors déjà, tu noteras que j'appelle ça les clients parce que c'est des entreprises souvent qui ont un business model fondé sur un B2C assez classique où en gros, elles te vendent quelque chose. Je prends un exemple, Niva, N2EVA, c'est un nouveau moteur de recherche qui se veut payant pour protéger tes données.
D'accord.
Et compris par les anciens de Google.
Okay.
L'idée, c'est que tu vas payer pour avoir accès à un service. Donc, tu rétribues la plateforme pour avoir accès à ce service. Leur objectif en termes d'éducation, si tu veux, pour gagner des parts de marché et gagner un business, ça va être de faire comprendre aux gens que payer 5 euros par mois, c'est bien pour qu'ils protègent leur vie privée, qu'ils protègent leurs données et qu'ils protègent une forme de leur liberté. Je profite de ce moment pour rappeler la question importante entre est-ce qu'une entreprise considère les individus comme étant leurs utilisateurs ou leurs clients. Une question que je pose souvent à mes étudiants, c'est comment vous vous considérez par rapport à Facebook, Google? La plupart des gens vont dire on est leurs clients, voilà. En fait, on est leurs utilisateurs, mais on n'est pas leurs clients.
Oui.
Les clients de ces boîtes, c'est des publicitaires, ce qui crée une incompatibilité et ce qui crée un problème d'alignement fondamental parce que, et c'est le problème que tous les lanceurs d'alerte, notamment Francis Hogan chez Facebook, l'une des dernières, c'est que voilà, ces boîtes-là ne marchent pas pour nous, elles marchent pour leurs clients.
Clients. Oui. Et du coup, c'est une grande différence. Et donc, il y a cette notion d'évangélisation. Et donc, du coup, j'imagine, l'objectif final, c'est d'enfermer les gens dans une vision très spécifique du monde et de la société à travers justement la communication, le contenu et le storytelling qui doit avoir une place assez importante là-dedans.
Pour les entreprises, pour les plateformes technologiques, tu veux dire ?
Oui, notamment, mais aussi, en fait, je reviens aux marques parce qu'au final, une approche de la marque aujourd'hui, quand elle ne s'adresse pas forcément directement à ses clients, c'est d'essayer de monétiser ses utilisateurs d'une autre manière. Et donc, en effet, tu as les plateformes qui vont monétiser ta donnée, mais tu as aussi les marques qui vont prendre le parti de te donner du contenu gratuit en espérant que potentiellement, toi, si tu ne deviens pas un client, tu leur ramènes des clients d'une manière ou d'une autre. Que ce soit le bouche à oreille, que ce soit, je sais pas, l'évangélisation que tu vas faire à ton tour, etc.
Non, mais la question que je me poserais, en fait, c'est dans quelle mesure l'activité de l'entreprise soulève un enjeu éthique. Et ça, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je faisais des ateliers avec The Center for Human Technology, qui est une ONG montée par Tristan Risk, un ancien de Google, qui est un grand activiste de la tech. Et il posait une question très simple, qui est dans toutes les entreprises, que tout le monde dans l'entreprise peut se poser. C'est dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec l'idée d'expliquer très clairement comment votre business fonctionne à vos clients et à vos utilisateurs. Est-ce que vous êtes à l'aise d'expliquer votre modèle économique? Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'expliquer ce modèle économique, notamment parce qu'il y a des dark patterns, notamment parce que vous monétisez à outrance la donnée de vos utilisateurs, que vous comptez sur eux pour ramener beaucoup de business sans forcément ni les rémunérer ni quoi que ce soit, c'est qu'il y a un problème, un enjeu un peu éthique qui n'est pas forcément légal ni encore moins business, mais qu'il peut y avoir un problème parce qu'il y a, encore une fois, une asymétrie d'information sur le fait que les gens, en fait, ne savent pas comment votre business fonctionne. Et ça crée des problèmes, en fait, des dilemmes éthiques, si on veut, parce que voilà, c'est surprenant d'imaginer, en fait, comment est-ce que, c'est la question du consentement, comment des gens peuvent consentir à un service s'ils ne savent même pas comment il fonctionne?
Bien sûr, personne ne lit les conditions générales avant de télécharger une nouvelle application. Tout le monde scrolle jusqu'en bas et coche l'acceptation des termes sans les avoir consultés. Mmh. C'est vrai. Mais parce que limite, c'est devenu, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point la communication de ces marques, de ces entreprises a été efficace. À tel point, du coup, qu'on fait une espèce de confiance aveugle dans ces solutions qu'ils proposent, voire on ne considère pas la protection de nos données et de notre intégrité en tant que consommateur comme importante.
Ouais. Alors, pour moi, donc il y a déjà un problème de communication où ils sont très doués, mais disons que pour moi, le facteur essentiel et primaire, enfin, le facteur essentiel, ça reste cette fausse gratuité. Et ce modèle économique qui se veut universel, mais donc qui monétise de la pub, c'est ce qui a été la première pierre pour anéantir toute question autour du consentement. Parce qu'à partir du moment où un produit est gratuit, il est extrêmement difficile de se poser des questions. En fait, ça nécessite beaucoup d'efforts pour discuter avec soi-même, en fait, de la valeur, en fait, qu'on attribue à ça, parce qu'en fait, la valeur monétaire est nulle. Donc, on n'est pas amené à réfléchir beaucoup. En revanche, ça, c'est une question, pareil, que je pose souvent quand j'en discute de ces sujets, c'est si tu penses, toi, Noémie, à ton réseau social préféré et que je te dis demain, est-ce que tu es prête à payer ne serait-ce que 3 euros par mois ou 4 euros par mois pour y aller? Bon, bah, déjà, tu pourras répondre après, mais alors, t'en penses quoi, du coup, à cette question?
Bof, c'est dur de passer d'un modèle gratuit à un modèle payant. Enfin, quand tu as été habitué à du gratuit, c'est compliqué, je trouve, de passer. Ça, pour le coup, c'est quand même un gros dilemme pour beaucoup d'entreprises. Ouais. Passer du gratuit au payant ou faire du freemium.
Et ce qui est pourtant étrange, c'est que, bon, en général, sur une classe, j'ai très peu d'étudiants qui sont prêts à bouger. Mais le paradoxe, c'est quand même qu'on y passe, allez, au minima 2 heures par semaine. Tu vois, même parfois entre 2 et 10 heures par
semaine. Au grand minima.
Donc, voilà. Donc, mais disons, prenons 10 heures par semaine, ça fait quand même une quarantaine d'heures par mois, tu vois. Donc, ça veut dire qu'on passe 40 heures par mois sur quelque chose qu'on n'arrive pas à valoriser le prix d'un demi de bière, si tu veux, ou d'un allongé, un café allongé. Je veux dire, c'est quand même hallucinant de dire qu'on est autant pris dans ce genre d'outil alors qu'on y accorde une valeur extrêmement faible. Et pour moi, le payer, déjà, ça nous ferait nous poser la question de... ça assainirait notre rapport aux réseaux sociaux et à ces outils-là. D'une part, parce qu'en fait, on se poserait la question de qu'est-ce qu'on vient chercher sur ces réseaux-là. Et en fait, on passerait moins de temps dessus parce qu'on en aurait certainement moins. Donc, tous les gadgets un peu superficiels qu'on a sauteraient. Et là, je ne te parle même pas de comment ça assainirait tous les usages dans le web, parce qu'en fait, ça permettrait de baisser la publicité ciblée en ligne, qui pose quand même pas mal de questions en termes de monétisation du temps passé des utilisateurs. Là, voilà, je parcours des articles sur les annonces trimestrielles de Zuckerberg à propos de Meta. C'est hallucinant quand il parle de finance, c'est hallucinant que en fait, son marché, c'est vraiment le temps passé, quoi. Donc, en fait, c'est l'économie de l'attention 100%. Et il s'en cache pas. Il dit oui, bon, d'accord, il y a TikTok. TikTok, ça marche bien, mais vous en faites pas. Là, on est quand même en train de. On va remonter la pente en termes de temps d'écran passé de nos utilisateurs et ça. Et c'est ça leur métrique, en fait. Et ça, on devrait plus laisser passer ça, en fait. On peut pas laisser les plateformes aussi centrales, aussi essentielles dans nos vies avoir comme métrique le temps passé dessus.
Oui, en sachant que ce temps passé, il a potentiellement un impact négatif sur notre santé mentale, sur notre bien-être, globalement, justement, notre capacité à développer un esprit critique. Je suis complètement d'accord.
Ouais. Là, c'est une illustration qui est dramatique, mais bon, faut pas en faire une généralité, évidemment, mais ça reste très, très, très tragique. Mais il y a des parents en Angleterre qui ont fait reconnaître la responsabilité des plateformes dans le suicide de leur jeune adolescente il y a quelques années. Donc, on en arrive maintenant à démontrer que la santé mentale, notamment des plus jeunes, est touchée par ces outils-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est anodin. Voilà, je pense que là, il y a une génération entière de jeunes personnes qui souffrent d'isolement, qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de comparaisons démesurées dans leur vie, dans leur physique, et que c'est plus quelque chose sur lequel on peut juste fermer les yeux.
Oui, certes. Et du coup, je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont déjà fait ces réflexions et partagent d'une manière ou d'une autre le constat de dire que, en effet, les réseaux sociaux ne contribuent pas forcément au bien commun ni au bien-être des gens qui sont dessus. Mais le problème, quand tu es une entreprise et quand tu es une marque, c'est que tu as besoin pour exister d'être présente sur ces plateformes, de communiquer sur ces plateformes et finalement de rejoindre cette espèce de... Tu parlais d'un dogme, d'un despotisme, cette espèce d'injonction à être partout, tout le temps, parce que si tu ne l'es pas, tu n'existes pas aux yeux des utilisateurs, des internautes, de tes potentiels consommateurs. Donc, il y a un peu une espèce de prison, de cage dans laquelle les entreprises sont enfermées et une espèce de course sans fin qu'elles sont obligées de respecter si elles veulent pouvoir atteindre une audience et trouver des clients. Enfin, il y a des marques qui quittent les réseaux sociaux. Par exemple, celle dont je parle pas mal, c'est la marque Lush, qui, je crois, il y a un an ou deux même, a décidé de quitter Facebook, Insta, Twitter, etc. Parce que justement, la marque a fait une annonce. On considère que c'est des réseaux sociaux qui sont toxiques, qui impactent négativement la santé mentale de nos clients, de nos communautés. Donc, on fait le choix de quitter ces réseaux sociaux. Mais la marque Lush, elle a des centaines de milliers de consommateurs, des milliers de points de vente à travers le monde, des points de vente physiques, etc. Elle a quand même pas mal de bagages derrière elle qui lui permet de peut-être rejeter ce despotisme technologique et ces réseaux sociaux. La plupart des entreprises aujourd'hui, notamment celles qui viennent de se lancer, n'ont pas ce luxe.
Non, pas ce luxe. Ah oui. Alors, c'est sûr, d'une part, ça pose la question d'un modèle économique plus globalement. Ça ne pose pas que la question des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une incarnation d'un modèle économique et de la question de la consommation. Donc ensuite, la question plus profonde, c'est quelle réforme ou quelle évolution de notre modèle de consommation. Donc là, ça dépend évidemment des entreprises, des projets, de plein de choses. Mais il y a effectivement un problème de toute façon de surconsommation et de, j'ai envie de dire, du coup, d'une guerre de l'économie, enfin, d'une guerre de l'attention et d'une guerre du temps passé pour toutes ces marques qui sont dans des logiques d'hypercroissance et donc il faut à tout prix être partout, tout le temps, avoir le plus d'influenceurs, d'influenceuses pour exister. Ça, c'est sûr que c'est un problème beaucoup plus gros que les réseaux sociaux. Après, la question que je pose et je botte un peu en touche, mais la question c'est qu'est-ce qui se passerait si on inversait le targeting, tout simplement en se disant si les gens étaient plus en contrôle de ces outils-là, étaient plus actifs, étaient plus réfléchis, étaient plus dans la recherche eux-mêmes de ce qui les intéresse vraiment, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des outils où toi, Noémie, parce que tu as besoin de je sais pas moi, de tel outil, de tel objet, de telle activité, de théâtre, de sport, de ce que tu veux, te donner les outils pour que très facilement et très rapidement, tu puisses trouver en fait les bonnes entreprises ou les bons projets sans que ce soit eux qui te targetent en fait. Parce que le problème avec la publicité ciblée, dite intelligente, ce qui est quand même assez discutable, c'est qu'on n'est jamais acteur de la recherche ou de la... On est bombardé de contenu qu'on n'a jamais cherché en fait.
Absolument.
Si on inversait cette logique, alors ça nécessite plein de choses. Ça nécessite de savoir ce qu'on veut. Ça nécessite d'arrêter de croire que on va nous apporter tout de suite ce qu'on veut. Que oui, pour trouver un cadeau à Noémie, bah il faut que je réfléchisse un petit peu, que je me creuse la tête, que j'ai voilà. Mais en fait, c'est ça aussi qui rend la vie un petit peu plus peut-être profonde, j'ai envie de dire. Alors qu'en fait, on est trop dans l'expectative en fait. Donc, ça changerait le modèle économique, ça changerait le modèle de la pub, mais ça, je pense que ça pourrait être un modèle différent, en tout cas.
Un consommateur proactif et une marque qui sait se positionner là où le consommateur va venir la chercher, quoi.
Voilà. Il y a des marchés, c'est comme ça, je te disais, le marché de la privacy, enfin, de la confidentialité, tout ça, c'est un marché où les gens sont extrêmement actifs, cherchent un marché avec lequel on fait souvent la comparaison. Bon, maintenant, c'est un peu plus général, mais c'est le bio, tout simplement, en fait, ou la nourriture un peu, la nourriture responsable, en fait. Au début, fallait chercher ce genre de marque, fallait être un peu militant, fallait vouloir trouver ce genre de choses. Tu ne trouvais pas ça comme ça. Mmh. Aujourd'hui, avoir des Niva, des outils comme ça, c'est des outils qui sont, faut aller les chercher aussi, tu vois, ils vont pas...
Ouais.
Mais donc, ça demande, en fait, d'être concerné en fait, enfin d'investir du temps et de la réflexion pour savoir ce dont on a vraiment envie, ce vers quoi on veut vraiment tendre en fait.
Oui, ok. Ah, mais c'est une super piste de réflexion, je trouve ça assez génial. Alors difficile de matérialiser ça, enfin de voir à quoi ça peut ressembler dans toutes les industries, mais savoir se positionner intelligemment pour être trouvé plutôt que de pousser son message et de pousser son offre, ça reste un truc qui est plutôt tendance et qui est plutôt dans l'air du temps au vu du ras-le-bol des consommateurs vis-à-vis de la publicité sponsorisée, de la publicité ciblée. Et dans The Storyline, on parle beaucoup de marketing organique, et donc du coup du marketing qui consiste à donner avant de demander et surtout à essayer de ne pas être dans l'intrusion au quotidien et en permanence des utilisateurs. Et j'avais envie de te poser une autre question. Alors, tu es podcasteur toi aussi, tu as un podcast qui s'appelle Siri remplit mon verre. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu as lancé le projet? Je trouve ça assez cool, le nom est génial, Siri remplit mon verre, et je trouve ça aussi très chouette que tu sois actif sur des formats assez digitaux. On ne retrouve pas forcément beaucoup de profs qui ont des podcasts, à moins que je dise des bêtises et que je ne les connaisse simplement pas. Mais ça me paraît être assez, assez novateur. Du coup, je veux que tu nous racontes un peu l'histoire.
Ouais, écoute, l'idée initiale, c'était de partager un peu certains de mes travaux sur un format donc grand public et vraiment plus marrant et plus sympa que des articles ou ce genre de choses. Donc, c'était vraiment partager et aussi avoir un retour des auditeurs et avoir un peu leurs avis en fait et ce qu'ils pensaient de ces travaux. C'est un peu la même démarche que l'enseignement finalement. Tu partages et ensuite tu as un retour qui peut nourrir et enrichir ta propre réflexion. Donc c'est vraiment essentiel. Après, donc je l'ai lancé il y a 2 ans. Je discutais avec un très bon ami sur le nom. Moi je suis très nul en marketing et tous ces trucs-là. Donc je tournais en rond avec des noms très très nuls. Très très terre à terre, vraiment pas du tout rigolo. Et il me disait, bah oui, mais Gilles, tu nous parles toujours de jusqu'où on va déléguer des tâches, le problème de la perte de sens d'une action en fait qu'on n'est plus capable de faire, mais juste qu'on la délègue à des IA et compagnie. Et il me dit un jour on dira Alexa remplis mon verre, tu vois. Alexa, c'est le truc d'Amazon. Et ça m'a fait rire parce que tout de suite, j'ai pensé à la chanson de Jacques Brel, L'Ivrogne, où il y a ce fameux refrain « Ami remplit mon verre, ami remplit mon verre », où c'est un homme qui est perturbé, à la fois déprimé et puis joyeux dans l'ivresse. Enfin, tu vois, c'est une très belle chanson. Et donc, Ami remplit mon verre, tout de suite, c'est devenu Siri remplit mon verre. Et donc, on est parti là-dessus. Et donc, c'est bien mieux que tous les noms auxquels j'avais largement pensé.
Le brainstorming reste quand même un truc assez efficace. Je sais que The Storyline n'est pas né de mon esprit non plus. Et d'ailleurs, merci à mes copines Anna et Salomé qui m'ont aidé à le trouver. Et alors, comment est-ce que tu le... Ça m'intéresse aussi, tu m'en as parlé, mais je veux bien que tu le partages aussi aux auditrices et aux auditeurs. Comment est-ce que tu partages tes épisodes? Quel a été ton choix en termes de promotion et de communication autour du podcast?
C'est vrai qu'il y a un choix qui est assez fort, c'est d'être quand même très peu présent sur les plateformes technologiques et les réseaux sociaux et ce genre de choses. Moi, je n'ai ni compte Instagram, Facebook, je suis sur rien de tout ça. J'ai juste LinkedIn, c'est le dernier compte professionnel auquel je suis quand même attaché.
Le bastion.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un choix difficile parce que, évidemment, ça rend la communication difficile, mais je me sentais pas, en fait, d'être dans une incohérence aussi forte avec tout ce que, en quoi je crois et ce que j'essaye d'expliquer, tout ce en quoi je crois et non pas que j'explique, mais en tout cas, j'en discute avec des gens et mon opinion, en fait, si tu veux, qui est donc un peu ce qu'on vient de dire sur le fait que je pense pas que ce soit de nourrir cette asymétrie d'information, asymétrie de compréhension autour des réseaux sociaux, de fait de croire que qu'on peut targeter des gens avec du contenu de qualité, moi, ce n'est pas ce vers quoi j'ai envie de tendre. Mmh. Donc, j'ai fait ce choix de sortir de ces outils-là, de ne pas les utiliser. Voilà, ça rend la chose plus compliquée, mais c'est aussi... les gens sont aussi contents de tomber dessus quand ils cherchent un petit peu. Et c'est un peu... c'est parfois une des petites réussites quand je reçois un message comme ça de quelqu'un qui m'a trouvé complètement un peu par hasard ou que c'est du bouche à oreille et que c'est ce genre de choses...
Non mais trop bien, merci d'avoir partagé ça. Et pour The Storyline, c'est un peu pareil. J'ai eu ce questionnement dès le début et j'avais un peu cette réticence à rentrer dans la grosse machine de promotion avec le plus de posts possible, des carousels, du recyclage de contenu sur plein de réseaux sociaux différents. Et du coup, je suis partie sur le modèle de un post pour chaque épisode, donc finalement deux posts par mois. Et c'est comme toi, c'est pas forcément... c'est pas forcément optimal en termes de scale. En revanche, ça permet de s'assurer que les gens qui trouvent le podcast sont, je l'espère, d'ailleurs merci à vous qui écoutez l'épisode, intéressés par les sujets qui sont traités et sont plus attachés au contenu. Mais c'est toujours un grand dilemme et un grand débat, j'imagine, dans l'univers du marketing pour beaucoup de boîtes. Et au-delà de la forme du podcast, ce qui est intéressant, c'est aussi le fond et les sujets que tu explores depuis plusieurs années. Je crois que le premier, on en a beaucoup parlé, mais c'est le questionnement de cette idéologie start-up. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter par rapport à ce sujet-là, que tu as appris par rapport à justement le despotisme un petit peu numérique et la manière dont elle impacte les marques et leur stratégie de com?
Alors, ouais, donc il y a beaucoup de choses dans ta question.
Désolée, c'est une habitude que j'ai, je fais des questions tiroir. Mais du coup, tu peux prendre n'importe quel tiroir et rentrer dedans.
T'as mentionné le premier épisode, donc je vais juste repartir de ça. Donc, il s'appelle « Non conventionnel ». Pourquoi « Non conventionnel » C'est la phrase assez fameuse de Sergey Brin et Larry Page, donc les fondateurs de Google, qui, quand ils ont fait leur introduction en bourse, ont expliqué que Google, ce n'était pas une entreprise conventionnelle. Voilà. Pour moi, c'est le décor, il est planté, il est là. Tout est à peu près dit. On est face à quelque chose d'inédit. Inédit pour plusieurs raisons, d'un point de vue d'organisation, d'un point de vue des business dans lesquels ils sont, d'un point de vue des modèles économiques, d'un point de vue des valorisations gigantesques, d'un point de vue de la vision, en fait, voilà, de cette espèce d'ambition quasiment messianique.
Ouais.
Et le point de départ, encore une fois, c'est... Est-ce que les utilisateurs de ces entreprises-là, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit, finalement, ou en tout cas la possibilité de discuter, en fait, de cette vision? Donc, de sortir de cette dichotomie, l'entrepreneur visionnaire messianique qui a tout compris, qui est vraiment garant d'une providence quasiment divine, et l'utilisateur qui doit, en fait, sagement suivre ce qu'on lui dit de faire. Voilà. Un problème là-dedans, c'est la rhétorique complètement, elle est très forte cette rhétorique, mais la rhétorique de monter dans le train très vite, monter dans la fusée avant que vous soyez encore des losers sur le bas du chemin qui n'avaient pas compris pourquoi est-ce que c'était si important, et donc la mise en mouvement. Une rhétorique qui des entrepreneurs et des voilà qui n'est que comment est-ce qu'on peut s'assurer que les individus soit mise en mouvement, intègre ce mouvement, sans jamais vraiment trop le questionner. Donc, il faut toujours rester dans une espèce d'ignorance des masses, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens s'approprient trop ces sujets et le comprennent trop, parce que à mesure que l'ignorance diminue, les gens vont vouloir remettre en question un modèle qui, bon, c'est mon avis, mais qui est essentiellement néfaste.
Ouais.
Donc, il faut maintenir cette ignorance. Voilà, ça c'est quelque chose qui est essentiel, c'est de faire en sorte que les entreprises gardent la primauté de la connaissance.
Et est-ce que tu as des entreprises ou des secteurs ou des industries en particulier en tête qui jouent sur cette technique-là, ce côté de maintien dans l'ignorance et de création d'un mouvement dans lequel tout le monde est un peu obligé de rentrer?
Bah, la plupart, je trouve, des entreprises donc californiennes, tech californiennes, où en fait, donc cette question de l'ignorance, elle est, donc on en a un peu parlé, elle est orchestrée par cette gratuité qui tue toute velléité de discuter et de repenser le consentement tacite quand on rentre dans ces services-là. Donc ça, c'est les exemples un peu caricaturaux, c'est quand même ces boîtes-là. Et après, je trouve que c'est la rhétorique de la mise en mouvement, c'est une rhétorique qu'on retrouve un peu malheureusement partout en France. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, c'est la même chose. Cette question de vous êtes en train de rater quelque chose parce que vous n'êtes pas encore monté dans le train. Et ça, c'est une rhétorique qui est très, très autoritaire.
Oui.
Parce que ça fait vraiment... en fait, ça met beaucoup de poids et beaucoup de... Comment dirais-je voilà, on se sent très vite idiot, en fait. Et donc, on culpabilise les gens, voilà, à ne pas rentrer dans un mouvement. Alors même, parfois, ils ne le comprennent pas beaucoup et ils n'ont pas eu le temps de se poser des questions. Donc, c'est du prosélytisme, en fait. C'est-à-dire que dans quelle mesure tu peux faire en sorte que les gens te rejoignent très vite en gardant toi le leadership en fait du mouvement. Et ça, c'est, on en a un peu parlé quand on discutait de l'émission. C'est vraiment une référence que j'aimerais suggérer à tes auditrices et tes auditeurs. C'est l'art d'avoir toujours raison de d'Arthur Schopenhauer, qui est en fait Schopenhauer, souvent ça fait un peu peur, mais
puis, oui.
assez parfois pénible à lire. Mais là, c'est un tout petit livre très pédagogique sur toute cette question de comment, dans une querelle, avoir toujours raison. Et donc, comment, par des moyens plus ou moins, malhonnêtes, on va dire, c'est littéralement malhonnête, voilà, comment par des moyens plus ou moins malhonnêtes, on peut s'assurer d'avoir toujours raison. Et en fait, on retrouve beaucoup de mécanismes de la rhétorique, un peu start-up, voilà, donc il y a des choses comme... bien entendu, faire appel aux désirs et aux intérêts primaires des gens. Donc, l'enrichissement, le prestige, le pouvoir. Ça marche beaucoup mieux de parler de ça aux gens que de parler à leur intellect et à leur raison et à savoir si ça a du sens ou pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais leur dire qu'ils vont être très riches, très puissants et très réputés, ça marche quand même très bien. Et Schopenhauer dit, oui, bon, voilà, si vous arrivez à parler à des gens de leurs intérêts, vous pouvez être tout droit sorti d'un asile de fous, les gens vont vous suivre de toute façon. voilà. Donc il y a ce genre de technique, il y a aussi quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est la noyade, enfin la rhétorique par noyade, c'est-à-dire de donner beaucoup beaucoup d'éléments à quelqu'un, de l'assommer de paroles, l'assommer de choses, et donc c'est difficile de discuter alors quand on se sent un peu dépassé.
Oui.
Tout ça parce que la personne va vous dire beaucoup de choses très vite qui semblent très compliquées. Et qu'on n'ait pas trop la possibilité de rebondir dessus. Voilà. Donc,
trop intéressant. Oui, en effet, par la noyade, aujourd'hui, on voit bien les budgets phénoménaux investis par les entreprises pour créer des masses et des masses de contenu et justement pour multiplier leur prise de parole et pour avoir cet effet un peu de masse. C'est un peu effrayant. Eh bien, c'est réjouissant tout ça. Donc, du coup, la solution, c'est plutôt d'essayer de prendre conscience de ces dynamiques qui influencent à la fois notre vision de la société, du monde, mais aussi nos modes de consommation, et d'essayer de réfléchir potentiellement à des modèles économiques qui remettent la proactivité du consommateur au cœur de l'effort et au cœur des préoccupations de la marque.
Ouais, exactement. Et comme on touche un peu à la fin de la discussion, je voulais quand même mentionner un autre penseur qui pourrait beaucoup aider et éclairer tes auditrices et tes auditeurs, c'est Ivan Illich qui donc a écrit La convivialité ou Les outils de la convivialité, et qui est moi le point de départ de mon doctorat. Et en fait, c'est tout simplement dans un monde qui se complexifie, dans un monde où les outils deviennent de plus en plus performants, comment est-ce que je peux mettre d'autres indicateurs, enfin, comment je peux avoir une boussole plus complexe que la simple optimisation, que la simple performance. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que l'outil, au lieu qu'il soit juste performant, est-ce qu'on ne peut pas se dire, bah, l'outil, en fait, il aide mon utilisateur, mon client ou la personne qui conçoit l'outil à être plus créatif, à être plus autonome, à être plus instruit, à être plus en connaissance, voilà, oui. À être plus responsable de ses choix. Et donc, en fait, comment est-ce que tu peux promouvoir des outils qui ne vont pas chercher uniquement voilà, à optimiser un processus, CF, on reprend l'exemple du cadeau et tout ça, mais qui vont être des outils qui vont me permettre de faire des choix réfléchis, de trouver peut-être effectivement, de réfléchir à comment... Quel cadeau je pourrais trouver, etc. Mais en tout cas, en fait, tout simplement mettre l'utilisateur au centre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que le mouvement technologique a complètement... il le dit, mais je ne pense pas qu'il le fasse beaucoup, c'est qu'il a complètement délaissé l'utilisateur au profit de l'outil. Et l'outil est de ses métriques de performance.
Oui, ce qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de user-centricity, au final. Et ça fait partie des mantras, justement, des startups et des entrepreneurs, c'est-à-dire, ah, nous, on est user-centric, mais non pas product-centric.
Alors, moi, je veux bien, mais alors, souvent, quand ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils, enfin, comment ils mesurent leur user-centric et tout ça, ils vont dire, bah oui, bah, on a du temps passé, on a de l'adoption, on a du growth, machin. Mais est-ce que ça veut dire que l'utilisateur, en fait, quel est le service que vous lui rendez vraiment, en fait? Est-ce que c'est uniquement de l'optimisation et de la performance, ou est-ce que finalement, on est en train d'essayer de faire grandir? En fait, c'est un peu bateau, enfin un peu binaire ce que je dis, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que ça c'est une phrase, pareil, c'est quelque chose d'une économiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Dominique Méda, qui a écrit beaucoup sur la croissance, et elle dit bah en fait ce qu'on mesure finit par devenir ce qu'on croit. Et si on ne mesure que de la performance, c'est sûr que ce qu'on croit être bien entre guillemets, ou ce qu'on croit être censé, ou ce qu'on croit être le sens de notre action, bah, c'est uniquement de la performance quantitative. Donc, oui, user-centric sur ce genre de sujet de performance, mais qu'est-ce qui est perdu, en fait? Qu'est-ce qui est perdu dans cette quête un peu monomaniaque de performance? Et il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, qui sont de l'ordre du qualitatif, qui sont perdues. Et il y a, voilà, c'est un peu ce que je mentionnais au tout début, il y a ce côté un peu réducteur de la technologie à vouloir... toujours tout voir sous l'angle quantitatif. Et en fait, bah, le postulat de dire qu'on va pouvoir tout régler d'un point de vue quantitatif, il est énorme. Et l'idée, je pense, enfin, ce qu'il faut peut-être essayer de... Comment est-ce qu'on peut discuter ça? C'est en remettant du qualitatif sur le devant de la scène et en se disant, bah, il faut qu'on valorise d'autres choses qui se mesurent peut-être pas aussi facilement ou qui se mesurent peut-être pas tout court, d'ailleurs, au cœur de nos préoccupations. Voilà.
C'est une très belle conclusion, j'aurais pas dit mieux. Trop bien, bah merci beaucoup Gilles pour tous ces éléments, c'était très instructif et très intellectuel.
Bah écoute, j'espère que c'était chouette, merci encore pour l'invitation Noémie.
Je me rue chez le libraire pour aller voir le livre de Schopenhauer. Qui l'eût cru?
Et Illich, deux livres très courts, donc, vraiment c'est vraiment Illich et Schopenhauer, c'est deux livres assez synthétiques, donc ruez-vous.
Eh bien, très bien, on va faire ça. Merci beaucoup, Gilles.
Merci, Noémie.
Salut. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Je vous l'accorde, le sujet est très méta par rapport à ce à quoi je vous ai habitué. De mon côté, je vais m'empresser d'aller lire les livres de Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, et celui d'Ivan Illich, La convivialité. Comme l'a expliqué Gilles pendant notre discussion, il devient important pour nous autres marketeurs et communicants de questionner l'impact de nos pratiques sur la société de consommation et de réfléchir à développer des modèles économiques et promotionnels qui soient plus respectueux des consommateurs. En tout cas, c'est mon avis. Un vaste chantier sur lequel je vous laisse réfléchir. Et si vous avez des pistes de réflexion à ce sujet, n'hésitez pas à venir m'en parler sur LinkedIn. Je vous dis à très vite dans The Storyline.